Plex, plex, plex. Savez-vous ce qu'est le triplex ? Bonjour tout le monde et merci d'être à l'écoute de Clic Clac Topette sur Radio G 101.5 FM. Vous voulez de l'histoire, vous voulez de l'Anjou et même des idées de sortie en famille pour le week-end ? C'est ici que ça se passe. Cette émission est partenaire d'Anjou Tourisme pour vous proposer les plus beaux sites du département de Maine-et-Loire. Et aujourd'hui, notre invité est justement Clément Cerisier qui va nous parler non seulement du triplex, mais aussi de la fabuleuse collection de vieux objets que met en avant son musée aux anciens commerces de Douai-la-Fontaine. Cette émission marque également le grand retour du crayon de Raph qui va s'inspirer d'une photo de la rue Lyonnaise par Lucie Auguste sur Instagram. On parlera histoire du féminisme avec Eva Tespliqué et l'émission Entre les pages nous fera savourer son deuxième épisode sur la vie d'Hervé Bazin. Et mieux qu'une terrasse sur l'avenue Foch, Calix de Nigremont nous emmène prendre le grand air de l'Écosse. Billet indépendantiste à retrouver chaque samedi sur Ouest France.
L'Écosse et nous, ou alcool fort, smoking et souveraineté nationale. Avez-vous noté, cher lectorat, à quel point les destins de l'Écosse et de l'Anjou sont d'une similarité qui confine à la gémellité ? Au point que si quelques détails ne nous distinguaient pas, le monde nous confondrait. Certes, nous ne brillons pas par notre pratique de la cornemuse, mais je sais quelques candidats aux élections prochaines qui s'y entendent pour le pipeau, et nos climats n'ont que peu de rapport, ce qui explique sans doute que l'on parle bien peu du vin écossais. Mais, tenez, par exemple, l'Écosse et l'Anjou sont tous deux universellement réputés pour leurs alcools forts. L'Écosse, qui n'a pas notre chance, jouit d'une petite notoriété pour son whisky, mais, et je regrette d'avoir à le dire, pour son seul whisky. Quand, de son côté, l'Anjou peut se targuer de proposer aux amateurs au moins trois spécialités à même de satisfaire les gosiers les plus exigeants, ou les moins regardants mais les plus avides d'ébriété. Le Cointreau, de la maison Cointreau, l'amande pastille, de la maison Giffard, et le triple sec de la maison Combier. Excusez du peu. Autre illustration, l'Écosse a donné à l'Angleterre une dynastie royale, les Stuarts, qui, durant un peu plus d'un siècle, de 1603 à 1714, a régné sur le peuple anglais. Je ne voudrais pas écraser nos amis écossais sous le poids pachydermique de notre prétention, mais enfin, nos Plantagenets se sont, eux, prélassés sur le même trône durant près de 330 ans, de 1154 à 1485. Je passe sur le fait que les châteaux pullulent en Écosse à peine moins qu'en Anjou et que Daniel Gélin vaut bien, au moins pour le port du smoking, Sean Connery. Enfin, lors des dernières élections au Parlement local, au début de ce mois, l'Écosse a voté majoritairement, 64 sièges sur 130, pour le Parti pour l'indépendance écossaise, lequel a, comme de bien entendu, immédiatement mis en demeure le Premier ministre britannique d'organiser un référendum sur le sujet. Alors, évidemment, ça n'a aucun rapport. Je ne sais même pas pourquoi je vous parle de ça. Mais l'Anjou votera, dans une vingtaine de jours, pour renouveler les membres de son assemblée représentative. Voilà, c'est tout.
Clément Cerisier, bonjour.
Bonjour.
Tu as 27 ans et tu es propriétaire d'un musée. C'est le musée aux anciens commerces de Douai-la-Fontaine. Alors là-bas, il y a tout. Un gestionnaire dynamique et passionné, toi. Un bâtiment classé monument historique et de fabuleux objets qui témoignent de l'histoire assez proche, finalement, de nos commerces d'antan. Justement, Clément, peux-tu décrire aux auditeurs de Clic Clac Topette ce qu'on trouve dans ton musée aux anciens commerces ?
Alors, dans le musée, on trouve une vingtaine de boutiques d'autrefois, telles qu'elles pouvaient être entre les années 1850 et les années 1950. Ce sont principalement des boutiques qui ont été récupérées dans la région par le fondateur du musée, M. Gilabert, entre les années 60 et les années 80. Et les boutiques sont reconstituées vraiment à l'identique avec leur mobilier d'origine, les marchandises, les stocks bien sûr, et effectivement, pour bon nombre d'entre elles, les devantures qui ont été récupérées elles aussi dans la région,
ouais.
Qui sont toutes de véritables devantures.
Alors la visite, elle commence tout doucement, on passe à l'étage, on a deux, trois mises en situation, on a une pharmacie avec des anciens liquides dedans qui sont toujours, qui ont été mis à la base dedans, je crois, qui sont toujours dedans depuis. On continue en passant devant deux, trois petits commerces reconstitués, le cartoucheur de fusil, enfin je ne sais pas si c'est le terme exact.
L'armurier.
L'armurier, c'est ça. Et après on redescend et là vraiment c'est une véritable rue, une immersion totale dans le temps, une vraie rue commerçante.
Tout à fait. Depuis 1992, le musée accueille donc cette reconstitution d'une rue, vraiment, enfin voilà, dans ses moindres détails, hein, avec les façades de bâtiments sur lesquelles on retrouve les volets, les gouttières, le sol est pavé, on retrouve des plaques d'égout à différents endroits, enfin voilà, vraiment, tout un tas de petits détails.
J'aimerais qu'on s'arrête ensemble, Clément, devant la droguerie. Je crois que c'est ton commerce préféré, d'ailleurs.
Tout à fait. La droguerie, c'est à mon sens le trésor du musée, puisque donc c'est une boutique qui a réellement existé, qui était située à Angers, et qui a été récupérée entière par le fondateur du musée et réinstallée à l'intérieur donc, des bâtiments. Comme je disais tout à l'heure, comme cette boutique a été récupérée intacte, on a en fait tout le stock neuf. Donc les étagères sont vraiment garnies de produits voilà, qui n'ont jamais été vendus. Les bouteilles sont pleines, les boîtes de lessive sont encore pleines.
Et justement, je crois à l'époque, on pouvait trouver dans ces flacons du Flitox. Qu'est-ce que c'est le Flitox ?
Tout à fait. Alors le Flitox, c'est l'ancêtre de nos bombes insecticides.
Ouais.
Hein, aujourd'hui, on appuie sur un bouton, ça vaporise. À cette époque-là, il fallait donc pomper pour vaporiser le produit.
Avec la petite pompe que... Alors moi, c'est Mickey qui m'évoque cette pompe-là. On tire comme ça, c'est vraiment comme une pompe à vélo,
tout
finalement.
Tout à fait, ça ressemble à une pompe à vélo avec un petit réservoir. Et effectivement, pour les plus jeunes qui n'ont jamais connu ces produits-là, on le retrouve dans bon nombre de dessins animés, notamment dans une bande dessinée Tintin, où le capitaine Haddock chasse les moustiques avec ce genre d'ustensile.
Alors là, on s'intéresse au contenu. Si maintenant on s'intéresse au contenant, au bâtiment, je crois que c'est deux anciennes écuries qui correspondaient à un château, c'est ça, juste à côté ?
Tout à fait. Donc en fait, le musée est installé dans les écuries d'un domaine du XVIIIe siècle,
ouais.
Construit par le baron Foulon, un personnage important de la ville de Douai-la-Fontaine, puisqu'il a été l'équivalent, on va dire, du ministre de la guerre et ministre des finances sous Louis XV et Louis XVI.
Ah oui !
Et malheureusement pour lui, il a mal fini au moment de la Révolution.
Comme beaucoup à l'époque.
Comme ouais. Beaucoup. Le domaine a été saisi puis vendu en différentes parties. Et les bâtiments qui accueillent aujourd'hui le musée, qui sont les écuries et les communs du château, ont servi pendant très longtemps de ferme, jusqu'à ce que la ville de Douai rachète les bâtiments et les fasse restaurer. Et le musée s'y installe en 1983.
Et le château dans tout ça, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors le château dans tout ça, il a été pas mal malmené. On sait que... pendant la Révolution, voilà, des troupes républicaines stationnées ici qui avaient le château pour cantonnement se plaignent de l'état de délabrement du château.
Ah oui.
Et sur le plan cadastral, après de 1815, à la place du château, enfin sur les bases du château, on a un moulin d'installer.
Avant de conclure notre échange, Clément, quel est selon toi l'élément, la boutique ou l'objet must to see qui achèverait de convaincre les auditeurs de Clic Clac Topette, s'il fallait encore les convaincre, de se rendre au musée aux anciens commerces ?
Ça, c'est la question difficile, ça.
Tout.
Dans les objets un peu insolites, à la droguerie, on a par exemple le balai triplex.
Ah, triplex, c'est ça le nom.
Qui est un balai à système, voilà, qui fait balai brosse et serpillière. On peut remonter la serpillière pour l'essorer sans se mouiller les mains. Enfin voilà, tout un tas de choses.
Merci beaucoup, Clément Cerisier. Je rappelle que tu es propriétaire et gestionnaire du musée aux anciens commerces à Douai-la-Fontaine, un musée qui retrace l'histoire comme on aime, avec de véritables objets issus du passé. Je te laisse terminer en rappelant les liens utiles pour en apprendre plus sur le musée, un site internet, un Facebook par exemple.
Alors donc oui, vous pouvez nous retrouver hein, sur différents réseaux sociaux, on a notre page Facebook, Musée aux Anciens Commerces, également Instagram depuis quelques temps, et puis notre site internet, donc anciens-commerce.fr.
Merci beaucoup.
Merci.
Durant l'hiver, il est plus dur de sortir dessiner en plein air. Alors, sur mon écran de téléphone, je fais défiler des photos. Et sur Instagram, je tombe sur une photo de Lucie Auguste qui réalise de magnifiques clichés de notre ville, Angers. Une photo m'attire. J'aime ses couleurs, les différentes architectures des bâtiments. Je connais cette rue, c'est la rue Lyonnaise. Je sors alors mes crayons et décide de reproduire en dessin cette photo. Bonjour, c'est Raphaël, bienvenue dans le Crayon de Raph, des balades dessinées sonores à la découverte de notre ville, Angers. Ce quartier de la Doutre, ou d'Outremaine, est une véritable source d'inspiration pour de nombreux dessinateurs et peintres. Le tout début de la rue Lyonnaise, particulièrement juste après la place de la Laiterie, est bien conservé. On s'imagine aisément l'ancien bourg qui se dressait autour de l'abbaye du Ronceret, avec les anciennes échoppes dont on devine encore les devantures. J'imagine la vie très animée qui y régnait jadis. J'apprends plus tard que cette rue du XVIe siècle est une des artères les plus typiques du vieil Angers d'Outre-Maine. C'était un axe qui permettait de relier Angers à Rennes. En tout cas, les pavés sont restés, tout comme les pierres, les façades en pan de bois et les toits en ardoise que j'adore dessiner. Un alliage typique de notre région. Il y a également les vieilles lanternes encore accrochées aux façades, un détail incontournable du décor. Concernant les peintures, entre le bleu des volets d'une charmante maison sur la gauche et le rouge vif d'un atelier, je ne suis pas convaincu que je parviendrai à les reproduire. Je décide de coloriser mon dessin uniquement en deux couleurs, le noir et le jaune typique de mes dessins. Retrouvez le dessin réalisé et d'autres balades sonores dans Podcast Plus sur radio-g.fr, dans l'émission Clic-Clac-Topette et sur mon compte Insta, @arafalidbd.
Pour la petite info supplémentaire, la rue Lyonnaise était l'ancien axe principal entre Angers-Rennes et Angers-Laval. Une rue qui devait avoir cette saveur des rues commerçantes que l'on peut justement se figurer au musée aux anciens commerces de Douai-la-Fontaine avec Clément Cerisier. Allez, histoire beaucoup plus récente maintenant et encore d'actualité, celle du féminisme avec Eva T'expliquer.
T'inquiète, Eva T'expliquer.
Salut Eva.
Coucou papa.
Bon, après toutes ces histoires de mort et de maladie, tu m'as promis d'aborder un sujet plus léger et joyeux.
Oui, tout à fait. On va parler féminisme, un sujet qui me tient à cœur.
Je suis pas sûr que ce soit si léger, hein. C'est un sujet plutôt sensible et débattu en ce moment.
En effet, si près de 80% de la population française se dit favorable à l'égalité entre les femmes et les hommes, seuls 38% se disent féministes. Terme aujourd'hui malheureusement assimilé à une lutte anti-hommes. Je crois qu'il est temps de rétablir quelques vérités.
Attends, je m'en remets toujours pas qu'il y ait 20% de la population française qui ne soit pas favorable à l'égalité entre les hommes et les femmes.
Sur ce sujet, tu n'es pas au bout de tes surprises.
Eh bah vas-y, fonce. Comment tout cela a-t-il commencé ?
Dès la Renaissance et jusqu'au XVIIe siècle, on assiste à la naissance d'un proto-féminisme, consistant alors à demander un droit à l'éducation des jeunes filles, et parfois même seulement le droit d'apprendre à lire et écrire. Mais ce courant s'oppose aux religions et textes bibliques, prônant une soumission des femmes envers les hommes.
Ah ouais, sympa la mentalité.
Au début du XVIIIe siècle, siècle des Lumières, la philosophie humaniste va permettre une interrogation sur les droits des femmes, leur place dans la société et donc leur rôle politique. Des écrivaines anglaises comme Mary Astell au début de siècle puis Mary Wollstonecraft à la fin vont porter des idées égalitaires.
Bah et en France ?
La Révolution française de 1789, notamment grâce au marquis de Condorcet et à Olympe de Gouges, offrira une première avancée dans l'égalité femmes-hommes. Le droit au divorce, le mariage comme contrat civil égalitaire, l'égalité en matière d'héritage...
Ah voilà de beaux progrès !
Qui seront tous annulés sous l'Empire napoléonien et la Restauration entre 1804 et 1816.
Ah, coup dur.
Et Olympe de Gouges fut guillotinée.
Ah, coup tendre.
Non, ce n'est pas possible cette blague, papa.
Pardon.
Mais heureusement, le mouvement pour l'égalité, aussi appelé égalitarisme, en Europe était lancé. Le 19e siècle sera marqué par la dénonciation des injustices faites aux femmes et l'apparition de journaux féministes, notamment au Royaume-Uni, grâce à des militantes comme Marion Reed, Caroline Norton, Florence Nightingale ou Francis Cobb, mais aussi en France avec la création du premier groupe féministe français en 1868, porté entre autres par Louise Michel ou Maria Deren.
Le mouvement s'étendra à toute l'Europe dès cette époque ?
Et au-delà ! Aux États-Unis, bien sûr, et dès le milieu du 19e, au Japon et même en Perse, l'actuel Iran.
Comme quoi, les idées reçues ? Et cela va-t-il mener à de nombreuses avancées ?
Oui, surtout en matière de suffrage, de droit à la propriété, du droit matrimonial, de divorce. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, naîtra dans les pays occidentaux ce qui sera ensuite nommé la première vague féministe. Le Wyoming, état des États-Unis, sera le premier à accorder le droit de vote aux femmes en 1868. Il s'en suivra quelques autres états et pays, mais il faudra pour beaucoup attendre la fin de la Première Guerre mondiale, conflit durant lequel les femmes ont un rôle majeur.
Oui, et après lequel elles s'en sont retrouvées bien plus nombreuses que les hommes.
Et oui, tristement en effet, le droit de vote ne leur sera accordé aux États-Unis qu'en 1920, au Royaume-Uni en 1928 avec les fameux mouvements de suffragettes.
Et en France ?
On n'est pas vraiment de bons élèves. Il aura fallu attendre le 21 avril 1944 et une ordonnance du Comité français de la Libération nationale, signée par le général de Gaulle, pour qu'enfin les femmes puissent participer à l'élection de leurs représentants.
Ah ouais, t'as raison, on est lent, hein. Mais je suppose que ça y est, le mouvement était bien lancé.
Oh, malheureusement, ce n'est pas si simple. Il va falloir attendre les années 60 pour qu'aux États-Unis débute une deuxième vague féministe, militant cette fois pour des avancées en matière de sexualité, de droit à disposer de son corps, d'émancipation, de liberté.
Eh ben, comme tu dis, c'est passionnant et c'est un grand combat. Allez, je veux tout savoir.
T'inquiète, elle va t'expliquer.
On connaît souvent Hervé Bazin, l'auteur angevin. On connaît aussi son roman « Vipère au poing ». Pourtant, il y a encore à dire à ce propos. Saviez-vous, par exemple, que l'intrigue prenait racine en Anjou, près de Segré ? Est-ce que ce roman est une autobiographie ? Eh bien, c'est Luc, de l'émission « Entre les pages » qui va nous en dire davantage avec le deuxième épisode de sa mini-série consacrée à cet auteur angevin.
Un Bazin sinon rien, une micro-série produite par l'émission « Entre les pages » Épisode 2, un roman. Hervé Bazin va entrer en littérature en fanfare. Il va coucher sur le papier ce morceau d'enfance, ces 18 mois où il a vécu réellement avec ses parents à Maron. Cela va donner Vipère au poing qui va paraître en 1948. Il a 37 ans. Souvenez-vous, déjà rien qu'à dire certains noms, je suis sûr que tout vous revient. Folcoche, Brasse-Bouillon, Freddy, Cropette, B7. En résumé, la famille Rezeau vit perdue dans une grande propriété, la belle Angerie, au fond d'une campagne noire et pluvieuse. Il y a le père Jacques, la mère Paul et les garçons Jean, Ferdinand et Marcel. Après le décès de la grand-mère, les parents vont rentrer de Chine avec Marcel, le petit dernier. Ils sont attendus avec impatience par les deux aînés. Mais ils vont vite déchanter. Le père va décréter la nouvelle organisation familiale, pour le moins spartiate, et la mère va donner ses directives, faites uniquement de privations et de sévices. Plus de café au lait le matin, plus de poils ni d'édredons dans les chambres, des sabots en guise de chaussures, les cheveux tondus et pour tout loisir, l'entretien du parc, la vie de bagne. Et c'est sans compter tous les sévices quotidiens. On se souvient de la griffure de fourchette sur la main parce qu'un des enfants se tient mal à table. Très vite, les enfants vont trouver un surnom à cette méchante mère, Folcoche, la contraction des deux mots « folle » et « cochonne ». On a trouvé mieux comme mot d'amour. Folcoche, Madame Rezeau, va tomber malade et devoir séjourner à l'hôpital. Pendant cette période, elle va perdre de son pouvoir. Elle va recruter un nouveau précepteur, un abbé surnommé B7, particulièrement cruel. On dirait aujourd'hui pervers. Dans cette vie infernale, les enfants vont n'avoir qu'un objectif, tuer leur mère. Ils vont imaginer l'empoisonner avec ses médicaments, mais cela va échouer. Au cours d'une sortie en barque, Brasse-Bouillon va faire chavirer la barque pour noyer sa mère. Folcoche, qui ne sait pas nager, va quand même réussir à remonter sur la berge. La libération va venir par l'entrée des enfants au collège, en internat. Et le roman se termine par la célèbre phrase « Merci, ma mère, je suis celui qui marche, une vipère au poing ». Hervé Bazin est romancier. Son métier est de raconter des histoires. De sa famille, dans Vipère au poing, il est bien question. Mais s'agit-il d'une autobiographie arrangée ou plus simplement d'une fiction ? Fin de la deuxième partie, un Bazin sinon rien, une réalisation de Entre les pages, musique Ghislaine Valdivia au violoncelle sur l'ouverture de Cachemire de Led Zeppelin par l'Orchestra Sinfonica de Chancet.
Clic-clac-topette ne s'arrête jamais, puisque vous pouvez profiter des podcasts de l'émission à tout instant en vous rendant sur radio-g.fr. Il vous suffit de cliquer sur « Replay » puis « Lundi » et de choisir « Clic-clac-topette » évidemment. Pour réécouter le crayon de Raph ou la mini-série sur Hervé Bazin que vous venez d'entendre, par exemple, ça se passe toujours sur radio-g.fr, mais cette fois-ci, c'est dans l'onglet « Podcast Plus » qu'il faut se rendre. Allez, laissez-moi vos messages et réactions à cette émission via Facebook et Instagram, à Clic-Clac-Topette toujours. Et pour la suite, c'est lundi dans deux semaines à 13h. Où ça ? Je suis sûr que vous l'avez. Sur Radio G, évidemment, 101.5 FM. Bon après-midi en terrasse, sous la pluie ou pas. Et puis bah, topette !